Chapitre 4. Chez Fleury et Botte.
La vie au terrier n'avait rien à voir avec celle que Harry avait connue à Privet Drive. Les Dursley tenaient à ce que tout soit propre et en ordre, alors que la maison des Wesley baignait dans l'étrange et l'imprévisible. Harry fut stupéfait la première fois que le miroir, au-dessus de la cheminée de la cuisine, lui cria
« Remets ta chemise dans ton pantalon, espèce de débraillé !»
La goule, qui habitait le grenier, se mettait à hurler et à jouer avec des tuyaux de plomb chaque fois que la maison lui paraissait trop calme, et les petites explosions qu'on entendait retentir de temps à autre dans la chambre de Fred et de George étaient considérées comme parfaitement normales. Ce que Harry trouvait le plus insolite, cependant, ce n'était pas le miroir parlant ni la goule turbulente, mais plutôt le fait que tout le monde semblait avoir de la sympathie pour lui. Madame Wesley s'inquiétait de l'état de ses chaussettes et essayait de le forcer à reprendre 4 fois de chaque plat. Monsieur Wesley aimait bien que Harry prenne place à côté de lui pendant le dîner pour pouvoir le bombarder de questions sur la vie chez les Moldus, en lui demandant notamment comment marchaient les prises de courant ou le service postal.
« Fascinant !» s'exclamait-il lorsque Harry lui expliquait le fonctionnement du téléphone.
« Très ingénieux, vraiment cette façon qu'ont les Moldus de se débrouiller sans avoir recours à la magie !»
Un beau matin, alors qu'il avait déjà passé une semaine au terrier, il eut des nouvelles de Poudlard. Lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner en compagnie de Ron, il trouva monsieur et madame Wesley assis avec Ginny à la table de la cuisine. Il y eut alors un grand bruit. En voyant Harry, Ginny avait fait involontairement tomber son bol de céréales sur le sol. D'une manière générale, Ginny avait une très nette tendance à faire tomber toutes sortes d'objets chaque fois que Harry entrait dans une pièce où elle se trouvait déjà. Elle plongea aussitôt sous la table pour récupérer son bol. Lorsqu'elle réapparut, le teint de son visage évoquait la couleur du soleil couchant. Mais Harry fit comme s'il n'avait rien remarqué. Il s'assit et prit les toasts que Madame Wesley lui offrit.
« Vous avez une lettre de l'école ?» dit Madame Wesley en donnant à Ron et à Harry 2 enveloppes identiques en parchemin jauni sur lesquelles leur nom était écrit à l'encre verte. « Dumbledore, c'est déjà que tu es ici, Harry. Rien ne lui échappe.
Vous aussi, vous avez du courrier » ajouta-t-elle lorsque Fred et George entrèrent à leur tour dans la cuisine encore vêtus de leurs pyjamas.
Pendant quelques minutes, un grand silence accompagna la lecture des lettres. Celle de Harry lui indiquait qu'il devait prendre le Poudlard Express à la gare de King's Cross, comme d'habitude, à la date du 1er septembre. Elle contenait également la liste des nouveaux livres qui lui seraient nécessaires au cours de l'année. Les élèves de 2e année devront se procurer les ouvrages suivants. Le livre des sorts et enchantements, niveau 2, par Miranda Fouconnet. Flânerie avec le spectre de la mort, par Gilderoy Lockhart. Vadrouille avec les goules, par Gilderoy Lockhart. Vacances avec les harpies, par Gilderoy Lockhart. Randonnée avec les trolls, par Gilderoy Lockhart. Voyage avec les vampires, par Gilderoy Lockhart. Promenade avec les loups-garous, par Gilderoy Lockhart. Et une année avec le Yeti, par Gilderoy Lockhart. Fred, qui avait fini de lire sa propre liste, jeta un coup d'œil à la lettre de Harry par-dessus son épaule.
Toi aussi, tu dois acheter tous les livres de Lockhart.
Le nouveau prof de défense contre les forces du mal doit être un de ses fans. C'est sûrement une sorcière.
Fred croisa alors le regard de sa mère et préféra s'intéresser au pot de confiture sans insister davantage.
Tout ça va pas être très bon marché, dit George en lançant un rapide coup d'œil à ses parents. Les livres de Lockhart sont hors de prix.
On s'arrangera, dit Madame Wesley.
Mais elle paraissait préoccupée.
Je pense que nous pourrons acheter la plupart des affaires de Ginny d'occasion.
Ah bon, tu vas à Poudlard cette année? Demanda Harry à Ginny.
Elle acquiesça d'un signe de tête en rougissant jusqu'à la racine de ses cheveux flamboyants et posa le coude dans le beurre. Heureusement, Harry fut le seul à le remarquer, car au même moment, Percy, le frère aîné de Ron, entra dans la cuisine. Il était déjà habillé, son insigne de préfet de Poudlard épinglé sur son débardeur en tricot.
« Bonjour tout le monde » dit-il d'un ton énergique. « Belle journée, non ?»
Il s'assit à la seule place libre, mais il se releva d'un bond en ôtant de la chaise un vieux plumeau gris. Ce fut tout au moins ce que Harry crut voir, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que la chose respirait.
« Hérol !»
s'exclama Ron en prenant le hibou inerte dans ses bras et en enlevant la lettre glissée sous son aile.
« Enfin ! Il rapporte la réponse d'Hermione. Je lui ai écrit pour lui dire qu'on allait essayer de te délivrer de chez les Dursley. »
Il porta Hérol jusqu'à son perchoir fixé à la porte de derrière et essaya de le poser dessus, mais le hibou retomba aussitôt et Ron dut l'étendre sur la paillasse de l'évier.
« Lamentable !» marmonna-t-il.
Il ouvrit ensuite la lettre d'Hermione et la lut à haute voix. « Fer, Ron et Harry, si tu es là, j'espère que tout s'est bien passé, que Harry va bien et que tu n'as rien fait d'illégal pour le sortir de là, Ron. Sinon, lui aussi aurait des ennuis. Je suis très inquiète. Si Harry est en sûreté, dis-le-moi très vite.
mais tu ferais peut-être bien d'envoyer un autre hibou car celui-là risque fort de ne pas survivre à une tournée supplémentaire. Je suis très absorbé par le travail scolaire, bien sûr. Quelle idée, commenta Ron avec horreur. On est en vacances. Et j'irai à Londres mercredi prochain avec mes parents acheter les nouveaux livres pour la rentrée. On pourrait peut-être se retrouver sur le chemin de traverse. Dépêche-toi de me raconter ce qui s'est passé. Amitié, Hermione.
Tout ça me paraît très bien. Nous n'aurons qu'à aller chercher vos affaires le même jour, dit Madame Wesley en commençant à débarrasser la table. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui ?
Harry, Ron, Fred et George avaient l'intention de monter sur la colline où les Wesley possédaient un petit pré entouré d'arbres qui le cachait à la vue des habitants du village. Là, ils pouvaient s'entraîner au Quidditch à condition de ne pas voler trop haut. Il leur était impossible, en revanche, de se servir de véritables balles de Quidditch qui risquaient de s'échapper et de trahir leur présence. À la place, ils se jetaient des pommes qu'ils s'exerçaient à rattraper. Chacun volait à tour de rôle sur le Nimbus 2000 de Harry. C'était de très loin le meilleur balai dont ils disposaient. La vieille étoile filante de Ron se faisait souvent dépasser par des papillons. 5 minutes plus tard, ils montaient le flanc de la colline, leur balai sur l'épaule. Ils avaient demandé à Percy s'il voulait se joindre à eux, mais il avait répondu qu'il était trop occupé. Jusqu'à présent, Harry n'avait vu Percy qu'aux heures des repas. Le reste du temps, il restait enfermé dans sa chambre.
« J'aimerais bien savoir ce qu'il fabrique, » dit Fred en fronçant les sourcils. « Je ne le reconnais plus. Les résultats de ses examens lui ont été envoyés la veille de ton arrivée. Il a obtenu 12 buses et il s'en est à peine vanté. »
Buse, brevet universel de sorcellerie élémentaire, expliqua George en voyant le regard interrogatif de Harry. Bill aussi en avait obtenu 12. Si on n'y prend pas garde, on va avoir un autre préfet en chef dans la famille. Je crois que je ne survivrai pas à cette infamie.
Bill était l'aîné des frères Wesley. Lui et Charlie, le frère cadet, avaient déjà terminé leurs études à Poudlard. Harry ne les avait jamais rencontrés, mais il savait que Charlie étudiait les dragons en Roumanie et que Bill était en Égypte où il travaillait pour Gringotts, la banque des sorciers.
« Je me demande comment papa et maman vont se débrouiller pour acheter nos fournitures scolaires cette année, » dit George. « Tous les livres de Lockhart en 5 exemplaires. En plus, Ginny va avoir besoin de robes, d'une baguette magique et de tout le reste. »
Harry resta silencieux. Il se sentait un peu mal à l'aise. L'un des coffres de la banque Gringotts, à Londres, renfermait une petite fortune que ses parents lui avaient léguée. Bien sûr, c'était seulement en monnaie de sorcier qu'il était riche. On ne pouvait pas utiliser les galions, les mornilles et les noises dans les magasins des moldus. Il s'était abstenu, pourtant, de révéler aux Dursley l'existence de son compte à la banque Gringotts. À son avis, leur aversion pour tout ce qui touchait à la magie n'aurait pas été jusqu'à dédaigner un gros tas d'or. Le mercredi suivant, Madame Wesley les réveilla de bonne heure. Après avoir avalé chacun une douzaine de sandwichs au bacon, ils enfilèrent leur veste et Madame Wesley prit un pot de fleurs vide posé sur la cheminée.
« Il ne nous en reste plus beaucoup, Arthur, » soupira-t-elle en regardant au fond du pot. « Il faudra qu'on en rachète aujourd'hui. En tout cas, les invités d'abord. » « Après toi, Harry, mon chéri !»
Et elle lui présenta le pot de fleurs.
« Qu'est-ce que je dois faire » balbutia-t-il.
« Il n'a jamais pris la poudre de seminette !»
s'exclama soudain Ron.
« Désolé, Harry, j'avais oublié. »«
Jamais ?»
s'étonna Monsieur Wesley. « Mais comment as-tu fait pour aller acheter tes affaires sur le chemin de traverse l'année dernière ?»«
J'ai pris le métro. »«
Vraiment ?» dit M. Wesley très intéressé. Est-ce qu'il y a des escapateurs? Comment ça marche?
Je t'en prie, Arthur, pas maintenant, coupa Mme Wesley. La poudre cheminette, ça va beaucoup plus vite, mon chéri. Mais si tu t'en es jamais servi...
Ça se passera très bien, maman, dit Fred. Ne t'inquiète pas, Harry, tu n'auras qu'à regarder comment on fait.
Il prit dans le pot de fleurs une pincée de poudre étincelante, s'avança vers le feu qui brûlait dans la cheminée et jeta la poudre au milieu des flammes. Dans une sorte de grondement, le feu se teinta alors d'une couleur vert émeraude et s'éleva soudain plus haut que Fred, qui pénétra dans la cheminée en criant « Chemin de traverse !» avant de disparaître.
« Il faudra parler bien fort quand tu donneras l'adresse, mon chéri, » dit Mme Wesley à Harry pendant que George plongeait la main dans le pot de fleurs. « Et fais attention à ne pas te tromper d'âtre. »«
De quoi ?» demanda Harry d'un ton inquiet, tandis que les flammes grondaient à nouveau en emportant George.
« Il y a beaucoup de cheminées chez les sorciers, mais si tu articules clairement... »«
Il se débrouillera très bien, Molly, ne l'ennuie pas, » dit M. Wesley en prenant à son tour une pincée de poudre.
« Mais chérie, si jamais il se perd, qu'est-ce que nous dirons à son oncle et à sa tante ?»«
Oh, il s'en ficherait complètement, » la rassura Harry. « Dudley trouverait la plaisanterie excellente si jamais je me perdais dans le conduit d'une cheminée. Ne vous inquiétez pas pour ça. »«
Très bien, dans ce cas, tu n'as qu'à partir après Arthur. »
« Dès que tu pénétreras dans les flammes, annonce bien fort ta destination. »«
Écarte les bras le long du corps, » conseilla Ron.
«
Et ferme les yeux, ajouta Madame Wesley, à cause de la suie.
Et ne bouge pas, sinon tu risques de tomber dans la mauvaise cheminée, dit Ron.
Mais surtout, ne panique pas et ne sors pas trop tôt. Attends le moment où tu verras Fred et George.
En s'efforçant de garder tous ses conseils en mémoire, Harry prit une pincée de poudre de cheminette et s'approcha du feu. Il inspira profondément, jeta la poudre dans l'âtre et fit un pas en avant. Les flammes n'étaient pas plus chaudes qu'une brise tiède. Il ouvrit la bouche pour donner l'adresse et avala aussitôt un nuage de cendre.
Chemin de traverse, balbutia-t-il en toussant.
Il eut alors l'impression d'être aspiré dans un tourbillon géant. Il lui sembla qu'il tournait sur lui-même à toute vitesse dans un grondement assourdissant. Il essaya de garder les yeux ouverts, mais les flammes vertes qui dansaient devant ses yeux lui donnaient mal au cœur. Son coude heurta quelque chose de dur et il colla ses bras le long du corps en continuant de tourner, tourner, tourner. À présent, c'était comme si des mains glacées le giflaient à toute volée. Il entr'ouvrit les yeux derrière ses lunettes et vit défiler un flot indistinct de cheminées qui lui laissait apercevoir en un éclair des maisons inconnues. Les sandwichs au bacon remuaient dangereusement dans son estomac. Il referma les yeux, espérant de toutes ses forces que tout s'arrête enfin, et tomba tête la première sur un sol de pierre froide en sentant ses lunettes se briser sous le choc. Meurtri, étourdi, couvert de suie, il se releva précautionneusement en maintenant ses lunettes cassées contre son nez. Il n'y avait personne autour de lui et il n'avait aucune idée de l'endroit où il avait atterri. Il se trouvait au milieu d'un foyer de cheminée, dans un endroit mal éclairé qui paraissait être une grande boutique de sorciers. Mais rien de ce qui était exposé là n'avait la moindre chance de jamais figurer sur une liste de fournitures du collège Poudlard. Dans une vitrine proche, il y avait une main desséchée, posée sur un coussin, un jeu de cartes taché de sang et un gros œil de verre. Des masques sinistres accrochés au mur semblaient jeter des regards sournois. Un assortiment d'ossements humains était disposé sur le comptoir et toutes sortes d'instruments pointus et rouillés pendaient du plafond. Pire encore, la rue étroite et sombre que Harry apercevait de l'autre côté de la vitrine n'avait strictement rien à voir avec le chemin de traverse. Il fallait sortir d'ici le plus vite possible. Le nez toujours douloureux après sa chute, Harry se glissa silencieusement vers la porte de la boutique. Il n'était encore qu'à mi-chemin lorsqu'il aperçut à travers la vitrine deux silhouettes qui s'apprêtaient à entrer. Or, l'un des deux arrivants était la dernière personne qu'il aurait voulu rencontrer dans l'état où il se trouvait, égaré, couvert de suie et les lunettes cassées. Il s'agissait en effet de Drago Malfoy. Harry jeta un bref coup d'œil autour de lui et repéra une grande armoire noire à sa gauche. Il se précipita à l'intérieur et referma les portes sur lui en laissant une mince ouverture à travers laquelle il pouvait voir ce qui se passait dans la boutique. Quelques instants plus tard, une cloche sonna et Malfoy entra. L'homme qui le suivait ne pouvait être que son père. Il avait le même visage, au teint pâle et au nez pointu, les mêmes yeux gris et froids. Monsieur Malfoy traversa la boutique en jetant un regard nonchalant sur les objets exposés et agita une clochette posée sur le comptoir.
« Ne touche à rien, Drago, »
dit-il en se tournant vers son fils.
« Je croyais que tu voulais me faire un cadeau, » répondit Malfoy qui avait tendu la main vers l'œil de verre. « Je t'ai dit que j'allais t'acheter un balai de course, »
dit son père en tapotant les doigts sur le comptoir.
« Mais quoi bon si je suis même pas dans l'équipe du collège, » répliqua Malfoy avec mauvaise humeur. « Harry Potter, lui, a eu un imbus 2000 l'année dernière, par autorisation spéciale de Dumbledore, pour qu'il puisse jouer dans l'équipe des Gryffondors. Il est même pas si bon que ça, c'est simplement parce qu'il est célèbre, célèbre à cause de cette stupide cicatrice sur le front. »
Malfoy se pencha pour examiner une étagère remplie de crânes humains.
« Tout le monde est persuadé qu'il est tellement intelligent, le merveilleux Potter, avec sa cicatrice et son balai. »«
Tu m'as déjà répété ça une bonne douzaine de fois. »
dit Monsieur Malfoy en jetant à son fils un regard noir.
« Et je te rappelle qu'il n'est guère prudent de ne pas manifester la plus grande admiration pour Harry Potter, étant donné que la plupart d'entre nous le considèrent comme un héros qui a fait disparaître le Seigneur des Ténèbres. »« Ah, Monsieur Barjou !»
Un homme aux épaules voûtées venait d'apparaître derrière le comptoir. D'un geste de la main, il ramena en arrière les longs cheveux gras qui lui tombaient sur le front.
« Monsieur Malfoy, quel plaisir de vous revoir !» dit Monsieur Barjot d'une voix aussi huileuse que ses cheveux. « Je suis ravi, vraiment, et le jeune Monsieur Malfoy est là également. Je suis enchanté. Que puis-je faire pour vous ? Il faut absolument que je vous montre ce que je viens de recevoir aujourd'hui même à un prix très raisonnable. »«
Cette fois, Monsieur Barjot, je n'achète pas, je vends. »
coupa Monsieur Malfoy.
« Vous vendez ? »
Le sourire de Monsieur Barjot s'effaça quelque peu.
« Vous savez sûrement que le ministère multiplie les perquisitions, »
dit M. Malfoy en sortant de sa poche un rouleau de parchemin qu'il déroula pour le faire lire à M. Barjot.
« Or, il se trouve que j'ai chez moi quelques, disons, objet, quoi, qui pourrait me causer d'éventuels désagréments si jamais le ministère s'avisait de...
Monsieur Barjot fixa un pince-nez devant ses yeux et examina la liste.
Le ministère n'irait quand même pas s'en prendre à vous, monsieur.
Personne n'est encore venu fouiner chez moi. Le nom de Malfoy continue d'imposer un certain respect, mais le ministère se montre de plus en plus inquisiteur. On parle d'un nouvel acte de protection des moldus. Il ne fait aucun doute que ce loqueteux d'Arthur Wesley se trouve derrière tout ça. Il adore les moldus, l'imbécile.
Harry sentit une bouffée de colère monter en lui.
Et comme vous le voyez, certains de ces poisons pourraient laisser croire...
Bien sûr, monsieur, je comprends. Voyons cela.
Est-ce que je peux avoir ça ? Coupa Drago en montrant du doigt la main desséchée posée sur le coussin.
Oh, la main de la gloire ! S'exclama M. Barjot en laissant tomber la liste de M. Malfoy pour se précipiter vers Drago. Lorsqu'on met une bougie allumée entre ses doigts, seul celui qui la tient peut bénéficier de la lumière. Les autres restent dans le noir. Un avantage inestimable pour les voleurs et les pillards. Votre fils a beaucoup de goût, monsieur.
J'espère qu'il deviendra autre chose qu'un voleur ou un pillard, répondit froidement M. Malfoy.
« Je ne voulais pas être désobligeant, monsieur, croyez-le bien, »
s'empressa d'ajouter M. Barjot.
« Mais après tout, c'est peut-être ce qu'il attend, s'il ne travaille pas bien en classe, »
reprit M. Malfoy plus froidement que jamais.
« N'est pas ma faute, » répliqua Drago. « Les profs font tous des chouchous, c'est Hermione Granger, par exemple. »
« Je pensais que tu aurais honte qu'une fille qui ne vient même pas d'une famille de sorciers obtienne de meilleurs résultats que toi à chaque examen, »
lança sèchement M. Malfoy. Harry était si content de voir Drago furieux et déconfit qu'il faillit laisser échapper une exclamation de joie.
« C'est comme partout, » dit M. Barjot de sa voix doucereuse. « Les sorciers de souche sont de moins en moins respectés. »«
Pas par moi, »
coupa M. Malfoy l'air hautain.
« Par moi non plus, monsieur, » ajouta M. Barjot en s'inclinant profondément.
« Dans ce cas, nous pourrions peut-être revenir à la liste que je vous ai confiée, »
dit M. Malfoy d'un ton sans réplique.
« Je dois vous avouer que je suis quelque peu pressé par le temps, Barjot. Il y a des affaires importantes qui m'attendent ailleurs. »
Ils commencèrent alors à marchander. Harry voyait avec inquiétude Drago s'approcher de plus en plus de sa cachette à mesure qu'il examinait les objets exposés dans la boutique. Il contempla d'abord un rouleau de cordes de pendu, puis lut avec un sourire narquois le carton posé devant un magnifique collier d'opale. « Ne pas toucher, objet ensorcelé, ce collier a provoqué la mort de 19 moldus auxquels il a appartenu. » Drago vit alors l'armoire qui se trouvait face à lui. Il s'avança, tendit la main vers la poignée de la porte.
« Marché conclu, »
dit M. Malfoy au même moment.
« Viens, Drago, on s'en va. »
Harry s'essuya le front d'un revers de manche en voyant Drago s'éloigner.
« Je vous souhaite le bonjour, M. Barjot. Je vous attends demain au manoir pour venir prendre tout ça. »
Dès l'instant où la porte de la boutique se fut refermée, M. Barjot abandonna ses manières onctueuses.
« Le bonjour toi-même, Mr. Malfoy. Si ce qu'on dit est vrai, ce que tu m'as vendu ne représente pas la moitié de ce que tu caches dans ton manoir. »
La mine sombre. M. Barjot disparut au fond du magasin en marmonnant des paroles incompréhensibles.
Harry attendit un bon moment au cas où il serait revenu, puis, en prenant garde de faire le moins de bruit possible, il se glissa hors de l'armoire, se faufila entre les objets exposés dans leur vitrine et sortit de la boutique. Il colla ses lunettes cassées contre son nez et regarda autour de lui. Il se trouvait dans une ruelle minable qui semblait entièrement constituée de magasins consacrés à la magie noire. Celui qu'il venait de quitter, et dont l'enseigne portait le nom Barjot et Burke, était le plus grand de tous. En face... une horrible vitrine exposait des têtes réduites et un peu plus loin, une grande cage de verre était remplie d'araignées vivantes. Deux sorciers à l'allure miteuse, dissimulés dans l'ombre d'une porte, observaient Harry en se parlant à voix basse. De plus en plus mal à l'aise, Harry, qui s'efforçait de maintenir ses lunettes contre son nez, se mit en chemin dans l'espoir bien illusoire de trouver tout seul le moyen de sortir de là. Une vieille pancarte en bois accrochée au-dessus d'une boutique qui vendait des chandelles venimeuses lui apprit qu'il se trouvait dans l'allée des embrumes. Mais le renseignement ne pouvait lui être d'aucune utilité. Jamais il n'avait entendu parler de cet endroit. Sans doute les cendres qu'il avait avalées dans la cheminée des Wesley l'avaient-elles empêché d'articuler clairement sa destination. Essayant de conserver son sang-froid, il se demanda ce qu'il convenait de faire.
« Tu es perdu, mon chéri ?»
dit alors une voix dans son oreille. Il sursauta. Une vieille sorcière était apparue devant lui portant un plateau rempli d'ongles humains. Elle le regarda d'un œil torve en découvrant ses dents gâtées. Harry eut un mouvement de recul. « Non, non, tout va bien, dit-il. Je suis simplement... »«
Harry ! Ah, qu'est-ce que tu fais ici ?»
Harry sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Surprise, la sorcière sauta en l'air, renversant ses ongles qui lui tombèrent en cascade sur les pieds. Elle poussa un juron tandis que la carcasse massive de Hagrid, le garde-chasse de Poudlard, s'avançait vers eux à grands pas. Au-dessus de sa grosse barbe hirsute, ses yeux noirs lançaient des éclairs.
« Hagrid !» s'exclama Harry avec soulagement. « J'étais perdu. La poudre de cheminette